Bonjour à toutes et tous. Si vous vous intéressez aux questions de défense et de sécurité, vous savez ce que représente le salon Eurosatory qui se déroule tous les deux ans à Paris. C'est cette année la 28e édition qui se tient du 17 au 21 juin prochain à Paris-Nord-Villepinte. Et Eurosatory, qui sponsorise cet épisode, sera comme à chaque fois le grand rendez-vous mondial de la défense et de la sécurité. Je veux juste dire, c'est un événement que je trouve très étonnant, assez fascinant. J'y suis allé pour la première fois il y a deux ans pour l'édition 2022. Et vraiment, si vous vous demandez ce qui se fait dans le monde militaire et en matière de sécurité, c'est là qu'on peut voir les dernières tendances, depuis les plus grandes geekeries et les innovations du moment, jusqu'aux grands équipements du futur pour les armées et les forces de sécurité en France et dans le monde. Bref, si vous intéressez de près à ce monde-là, c'est le moment de vous inscrire pour ce qui sera la plus grande édition de l'histoire du Salon, avec plus de 1900 exposants et 60 000 visiteurs. Vous pouvez le faire en allant sur eurosatory.com. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui pour parler du renseignement en source ouverte, je crois qu'on peut lâcher d'emblée l'acronyme en anglais qui va beaucoup nous servir, à savoir l'OSINT pour Open Source Intelligence, qui est un phénomène, une tendance très marquante dans le monde du renseignement au sens très très large puisque ça s'étend jusqu'aux recherches universitaires et au journalisme, donc à l'OSINT, donc à ses méthodes, ses forces et ses limites, par exemple appliquées au conflit en Ukraine, où c'est l'une de nos principales modalités d'appréhender les événements. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui trois invités autour d'un numéro spécial de la revue Hérodote, sorti il y a quelques jours et intitulé « OSINT, enquête et terrain numérique ». Alors tout d'abord Kevin Limonier, maître de conférence en géographie et en études slaves à l'Institut français de géopolitique de Paris 8, directeur adjoint du centre Géode, géopolitique de la datasphère, spécialiste notamment du cyberespace russophone. Donc bonjour, bienvenue dans le Collimateur.
Bonjour.
Ensuite Marie-Gabrielle Bertrand, doctorante en géopolitique à l'Université Paris 8, spécialiste notamment des questions de souveraineté numérique en Russie. Donc bonjour, bienvenue aussi.
Bonjour, merci à vous.
Et enfin, un familier du podcast, Maxime Audinet, chercheur stratégie d'influence à l'IRSEM, spécialiste aussi de l'espace russe et de son influence. Je me rappelais que vous étiez venu nous parler notamment de l'influence russe en Afrique. Un sujet toujours vert, c'est le moins qu'on puisse dire, qu'on revisitera peut-être bientôt, et que vous avez récemment fait paraître un livre sur la chaîne RT aux éditions de l'INA. Donc bienvenue à nouveau dans le Collimateur, Maxime.
Bonjour Alexandre.
Alors, je vais dire en préambule que c'est quand même un petit événement, il me semble, ce numéro de la revue Hérodote que vous avez dirigé, je vais le préciser tout de suite, Maxime et Kevin, parce que je peux préciser pour les auditeurs qui n'en seraient pas familiers que Hérodote, c'est une revue très importante historiquement et dans le champ de la géographie, fondée dans les années 70 et qui a beaucoup marqué et structuré ce champ universitaire. Et pourquoi je dis donc que c'est si important, c'est qu'il me semble que ça vient matérialiser l'importance de cette pratique qu'est l'OSINT, qui est maintenant très présente dans énormément de champs d'investigation. Ça va du renseignement militaire au journalisme grand public, mais parfois mal définie, ou en tout cas qui reste un peu nébuleuse par moment. Et je crois donc que ce numéro d'Hérodote permet justement de baliser un peu les choses de ce point de vue-là, et marque un changement de statut, c'est-à-dire pour le dire un peu rapidement, je crois que ça vient un peu affirmer avec force que l'OSINT, c'est pas un truc de geek qui reste derrière leur PC et qui ne savent pas aller sur le vrai terrain, avec des gros guillemets évidemment, mais que c'est une méthode d'investigation absolument centrale à tout point de vue et dont il est en fait extrêmement douteux de vouloir se passer aujourd'hui. Et je pense que la guerre en Ukraine, dont on reparlera évidemment très largement, je pense, parce que vous êtes tous les trois, il se trouve, spécialistes de la Russie et de l'espace russophone, marque ça de manière très évidente, parce que absolument tous les commentaires, toutes les informations qu'on a pour suivre tout ça et l'évolution des fronts, telles qu'elles sont synthétisées par des commentateurs comme Michel Goya ou Olivier Kempf, par exemple, Michel Goya avec qui on en a parlé à ce micro de sa méthodologie il y a quelques mois, tout ça, c'est absolument de la source ouverte, ça n'est évidemment pas du renseignement militaire, c'est disponible librement sur Internet, et c'est à vrai dire dans une certaine mesure nettement plus fiable que ce que les belligérants de part et d'autre émettent et communiquent. Et en même temps, on va en reparler, mais le paradoxe c'est que c'est absolument pas nouveau et qu'on fait ça depuis toujours, et c'est simplement que ça a l'air nouveau, ce renseignement en source ouverte, parce que pour tout un tas de raisons, ça a pris des dimensions sans commune mesure depuis une décennie au moins, sans doute. Alors, pour entrer dans le sujet de la plus simple des manières, puisque j'ai dit que c'était un objet qui demeurait parfois un peu nébuleux, je vais poser la question de la manière la plus simple qui soit. Qu'est-ce que c'est que l'OSINT, c'est-à-dire le renseignement en source ouverte, Et bon, en fait, c'est-à-dire dans le fond, qu'est-ce que c'est qu'une source ouverte? Alors, je sais pas qui veut commencer. Kevin Limonier.
Je peux commencer, oui. Alors, ce qui est intéressant avec cet objet de Lossine, donc de l'investigation en source ouverte, c'est que sa définition, eh bien, elle change suivant le statut de la personne qui en parle, c'est-à-dire suivant sa fonction, suivant ce qu'elle cherche finalement. Puisque si vous allez demander à un journaliste ce que c'est que l'OSINT, il aura bon, une définition ou plusieurs définitions qui pourront exister, mais enfin bon, on verra à peu près ce que c'est. Si vous allez voir, par exemple, un membre d'une association ou d'une ONG russe qui se bat contre la corruption, bon, il y en a de moins en moins aujourd'hui, mais enfin bon, ils ont beaucoup utilisé l'OSINT, des gens comme Navalny, etc., ils auront une autre définition. Mais d'ailleurs, la définition la plus commune et la plus englobante qu'on puisse trouver de ce terme, c'est que l'OSINT en fait désigne un ensemble hétéroclite de pratiques d'investigation et d'analyse qui vise à dévoiler une information préalablement dissimulée en croisant, récoltant ou analysant des données numériques disponibles en source ouverte. Autrement dit, ça veut dire que tout ce qui permet finalement de récolter, d'interpréter des jeux de données en source ouverte pour en faire émerger une information grise, c'est de l'OSINT. Et donc à partir de là, le champ d'application est absolument énorme et quasiment infini. Et on comprend bien que les définitions sectorielles soient très différentes suivant à qui on s'adresse.
Marie-Gabrielle Bertrand ? Alors, pour vous, c'est intéressant puisque c'est apparemment impressionniste et que c'est très subjectif. Donc pour vous, c'est quoi l'OSINT et comment vous y êtes entrée, quoi ?
Je rejoindrai tout à fait la définition la plus commune, effectivement, qui a été établie suite aux travaux en fait de conception en fait de la revue de ce numéro de la revue Hérodote, puisque en fait moi justement j'y suis parvenue à travers l'étude de sources grises justement, et finalement c'est là où enfin ce que disait Kevin est particulièrement intéressant, c'est que l'intérêt de l'OSINT, c'est
donc les sources grises, c'est des sources pas totalement disponibles au bout d'une recherche Google, pas totalement dissimulées, mais voilà, accessibles quand même.
Exactement. Alors justement, en fait, c'est une définition, enfin c'est un terme, en fait, une expression qui vient au départ du renseignement économique. Et en fait, le renseignement économique a établi un peu trois grands types de sources. Donc les sources blanches, qui sont celles que justement tout le monde peut obtenir sans faire de recherche spécifique. Les sources grises, qui là sont finalement des sources qui sont pas censées être justement publiques et accessibles, comme vous le disiez, sans recherche, et qui vont nécessiter en fait un accès un peu détourné. Et les sources, les sources noires en fait, qui elles vont être des sources entièrement confidentielles ou entièrement inaccessibles en fait pour un public qui n'est pas autorisé à y accéder.
Donc l'OSINT, en somme, ce serait les blanches et les grises.
Oui, exactement. Exactement, l'OSINT va se servir du coup des sources blanches et des sources grises. Et justement, finalement, tout l'enjeu, en fait, tout ce qui est apporté par l'OSINT aujourd'hui, c'est que avec les outils en fait qui sont développés, je pense qu'on y reviendra après, mais avec les outils qui sont développés aujourd'hui, qui sont des outils spécifiques en fait pour faire de l'OSINT, on a des logiciels, des suites qui sont destinées à ça aujourd'hui en informatique. On peut justement compiler de la donnée qu'on n'aurait pas facilement trouvée par de simples requêtes Google, par exemple. Et justement, avec ces outils, donc l'OSINT permet de révéler de plus en plus de sources grises et finalement juste de produire des analyses plus, qui vont aller plus en profondeur sur un sujet, puisqu'on ne se contentera pas justement des sources blanches, en fait.
Maxime Olivier ?
Peut-être ce qu'on peut aussi ajouter, c'est qu'au-delà des sources ouvertes dont il est question, ce qui est intéressant, c'est que l'OSINT, c'est aussi, on l'a dit, un ensemble de méthodes, de techniques, de collectes, de hiérarchisation, de catégorisation, d'interprétation des données. Donc ça rassemble aussi non seulement la source ouverte elle-même, mais aussi justement tout un ensemble de moyens. Et c'est un des éléments que avancent deux de nos auteurs qui sont Hervé Lotoqueux et Aurélie Lemaître dans un des articles qui est consacré à l'utilisation des données en source ouverte pour faire de l'administration de la preuve, notamment en droit pénal international, et qui explique que c'est aussi, on parvient à collecter ces sources sans ruse ni stratagème. Donc c'est aussi intéressant parce que ça distingue le renseignement dit en source ouverte d'un renseignement qui serait effectivement plus clandestin, qui serait d'ailleurs l'apanage de ce qu'on appelle les bureaucraties du secret, les services de renseignement, qui elles vont s'appuyer sur d'autres sources. Même si, et c'est aussi l'objet d'un autre d'un autre article qui a été rédigé par plusieurs chercheurs justement de l'IRSEM sur l'utilisation de l'OSINT par les services de renseignement, on voit bien qu'il y a aussi, et même historiquement, un usage très poussé de ce type de technique par les services de renseignement eux-mêmes.
Mais alors on va y revenir dans une seconde, mais pour autant, il y a un truc quand même, c'est sans ruse ni stratagème, c'est intéressant comme affaire, parce que par qui ? Par exemple, donc il y a les données qui sont librement publiques, avec plus ou moins de savoir-faire, plus ou moins de doigté pour... Bon, réussir à consulter des bases de données, mais par exemple, on sait qu'un des grands trucs de ces dernières années, ça a quand même été des leaks massives, c'est-à-dire des gens qui viennent hacker des bases de données, qui les rendent complètement libres. Et ensuite, évidemment, une fois qu'elles sont disponibles, elles sont disponibles pour tout le monde, y compris pour les chercheurs d'OSINT. Mais donc, quand on touche à des leaks, y compris donc des informations qui ont été obtenues illégalement, illicitement, enfin en tout cas pas de manière tout à fait ouverte et blanche pour le coup. Est-ce qu'on est encore vraiment dans l'OSINT ou est-ce qu'on est dans un terrain un peu gris, Marie-Gabrielle Bertrand?
Alors c'est une excellente question puisque justement c'est une question qui n'est pas tranchée même au sein des communautés de ce qu'on appelle d'OSINTeurs, donc les enquêteurs en source ouverte. La question n'est pas tranchée et comme vous le dites, ces enquêteurs ont tendance à profiter énormément des fuites de données finalement, des leaks, puisque ce sont des données qui justement vont apporter une plus-value par rapport aux sources blanches. Donc là, pour les enquêteurs en OSINT, la question n'est pas tranchée, mais on peut dire en tout cas qu'une fois que la donnée tombe dans le domaine public, à partir du moment en fait, où elle n'appartient pas à une entreprise privée qui peut à ce moment-là en fait, faire une réclamation et poursuivre en justice tout détenteur en fait, de la base de données, on peut finalement s'en servir. Et en fait,
C'est-à-dire qu'on ne risque pas un truc légal si on touche à la donnée, puisque de toute façon, n'importe qui peut la télécharger, donc en quelque sorte, on a moins de risques en tant qu'OSINTeur.
En fait, oui, en fait, c'est un peu ambigu, parce que dès que c'est de la donnée... en fait, ce qui se passe en ce moment, c'est qu'on a aussi beaucoup de données d'entreprises, et notamment des entreprises, par exemple, françaises, qui vont se faire pirater par des pirates informatiques étrangers. En fait, dans ce cas-là, par exemple, pour un OSINTeur français qui va récupérer de la donnée d'une entreprise française et qui va garder cette donnée dans ses archives, en fait, là, il peut y avoir poursuite. Donc, en fait, c'est vraiment compliqué, mais en général, on va considérer qu'un OSINTeur français, par exemple, qui va récupérer une base de données étrangère, a moins de chances de se faire poursuivre en France que s'il récupère une base de données française, en fait. Donc là, ça va un peu jouer sur les limites, en fait, de la législation internationale dans ce domaine, qui n'existe pas vraiment, en fait, aujourd'hui.
Justement, vous le disiez il y a un instant, Maxime Audinet, pour autant, c'est pas nouveau. Enfin, les services de renseignement sont habitués à faire ça. On peut le dire, quoi. C'est pas une nouveauté radicale de se servir des informations disponibles pour collecter du renseignement, qui que l'on soit. Voilà, le renseignement, c'est pas seulement des entrevues secrètes dans des parkings souterrains, etc., ou des vols de documents confidentiels. Depuis toujours, en fait, les services de renseignement, par exemple, exploitent ce qui est facilement disponible au vu et sous tout le monde. L'information, c'est de l'information, et du coup, on n'a pas entendu Internet et les hackers pour se servir des informations qui étaient librement disponibles.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est ce que montrent aussi certains auteurs dans le numéro. L'idée, c'est de montrer que, en fait, d'une certaine manière, dès le 19e siècle, la plupart des services de renseignement vont, au-delà de la collecte d'informations clandestines, vont aussi aller observer tout simplement la presse, les médias, les journaux de différents pays pour aller en fait collecter l'état de l'opinion, les différents discours qui vont circuler et que c'est une partie intégrante en fait de l'activité de renseignement dès le 19e siècle. Même si on s'étend maintenant au journalisme, à la recherche en sciences sociales, etc. Moi, à titre personnel, je fais partie des chercheurs qui, et je pense que beaucoup se reconnaîtront, qui ont fait de l'OSINT sans le savoir. Enfin, qui ont mobilisé en fait ce type de pratiques, qui ont collecté des données en source ouverte sans jamais les qualifier d'OSINT. Et d'ailleurs, je pense qu'on reviendra tout à l'heure sur la question de l'usage de cette méthodologie en sciences humaines et sociales.
Kevin Limonier.
Oui, alors sur cette question de la... En fait, ça pose la question de la nouveauté ou pas de l'OSINT. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a intitulé le numéro... Bon, alors déjà, on a intitulé le numéro OSINT en terrain et enquête numérique, déjà parce qu'on s'est dit que Ossine, ça parlait peut-être pas à 100% du lectorat de Hérodote, mais surtout parce que on ne voulait pas utiliser une sorte, on voulait pas que ce soit interprété comme l'utilisation d'un buzzword ou de quelque chose comme ça. Donc on a sous-titré enquête et terrain numérique pour faire écho notamment à un numéro de la revue Hérodote qui date des années 70 et qui à l'époque posait la question de la valeur de l'enquête et du terrain dans le travail géographique. À une époque où la géographie essayait de se libérer de l'emprise coloniale, essayait de se réinventer comme une science émancipatrice, etc.
L'emprise coloniale, on va le dire, ça, beaucoup d'enquêtes géographiques ont été faites notamment au 19e et au début du 20e siècle par les puissances colonisatrices pour connaître un peu les pays qu'ils administraient. Donc il y a une généalogie un peu trouble, enfin bon, pas très confortable de la géographie de ce point de vue-là, et il y a eu ce grand moment, donc dans les années 60-70, où il a fallu réinventer une autre manière de faire de la géographie, pas seulement pour administrer efficacement des peuples soumis, mais aussi pour produire de la connaissance, quoi.
Absolument, pour produire de la connaissance et également pour engager un mouvement d'émancipation. Et c'est là-dedans qu'étaient d'ailleurs les fondateurs de la revue Hérodote. Et à l'époque, ils se posaient des questions qui en fait résonnent beaucoup avec nous, ce qu'on s'est posé comme question. Notamment le fait de savoir quelle est la valeur de l'enquête et du terrain. Quelle est sa valeur stratégique, c'est-à-dire dans quelle mesure est-ce que les renseignements et les informations récoltées sur le terrain vont nous permettre en fait de mieux connaître les stratégies et les tactiques d'un acteur pour imposer sa volonté sur un espace géographique précis. Ça, c'est le numéro d'Hérodote qui sort dans les années 70. Et dans ce numéro d'Hérodote, Yves Lacoste, qui est le fondateur de la revue, explique et revient sur un article qui en fait lui était dans le numéro 1 de la revue Hérodote.
Non, attendez, ça il faut rester dessus parce que c'est un truc vraiment tout à fait magnifique que vous faites. C'est un article d'Yves Lacoste qu'on cite parfois, qu'on lit rarement, qui est un truc sur qu'il avait fait sur la guerre du Vietnam, où en gros il expliquait, enfin c'est un superbe article qui est librement disponible sur internet et que j'invite tout le monde à aller voir parce que c'est génial, où il expliquait les bombardements américains près des digues vietnamiennes, et il expliquait globalement comment c'était une stratégie pour inonder les rizières et affamer la population et donc faire pression sur la population. C'est un truc de géomorphologie, alors ça plaît pas à tout le monde, mais la géomorphologie a rarement été aussi marrante que, enfin, en tout cas aussi astucieusement mobilisée que pour cet article-là. Et dans cette introduction d'Hérodote, enfin de ce numéro-là d'Hérodote, vous expliquez qu'au fond, il faisait déjà de l'OSINT, enfin, toutes les composantes de l'OSINT étaient déjà là dans cet article de 1972. Alors expliquez-nous ça, parce que c'est un parallèle que je trouve très très éclairant, Kevin Limonier.
Toutes les dimensions étaient là, sauf la dimension numérique, qui viendra plus tard, bien évidemment. Mais toutes les dimensions étaient là, pourquoi ? Parce que Lacoste, à la base, effectivement, est un géomorphologue. Et il va donc utiliser son savoir technique sur la courbure des fleuves, etc., les digues, la hauteur des digues, la pression dans les méandres du fleuve. Il va utiliser tout ce savoir-là pour montrer que les Américains sont en train de bombarder sciemment certaines digues pour que celles-ci lâchent au moment de la mousson, c'est-à-dire plusieurs mois après le dit bombardement. Lacoste avait réussi à faire cette étude avec l'autorisation, bien évidemment, du gouvernement vietnamien, qui lui avait mis à disposition des ingénieurs, des hydrographes, etc., etc. Et au fond, Lacoste avait réussi à dévoiler une information grise, comme on le disait au départ, en se fondant sur un savoir technique et une connaissance du terrain qu'il avait ou qu'il avait acquis, notamment auprès des géographes français qui connaissaient très bien l'Indochine et qui avaient expliqué que si les Américains... il expliquait que si les Américains tapaient précisément à cet endroit, c'est parce que en contrebas de ces digues, vous aviez des rizières et que si on inondait ces rizières, on provoquait donc une catastrophe humanitaire qui affaiblirait donc le Viet Minh contre les Américains. Avec le succès final que chacun sait, bien évidemment. Et d'ailleurs, Lacoste va publiciser cette histoire de digue. Il va même publier un article dans Le Monde, etc., qui va alerter l'opinion publique américaine. Il faut savoir que Yves Lacoste est toujours persona non grata aujourd'hui aux États-Unis, donc plus de 50 ans après, à cause de cet article, puisque Lacoste est toujours de ce monde. Et donc, ce qui est intéressant dans cet article, en fait, c'est qu'il pose les bases de ce qui sera ensuite on va dire, le grand slogan, entre guillemets, académique de Lacoste et de la revue Hérodote, c'est « la géographie, ça sert d'abord à faire la guerre ». Et ce que voulait dire Lacoste avec ça, il ne voulait pas dire que les géographes sont de fiefés collaborationnistes avec la puissance militaire, etc., ce qui était très mal vu à l'époque dans une discipline extrêmement marxiste, antimilitariste, pacifiste, ou ce genre de choses. Non, ce qu'il voulait dire par là, c'est que la connaissance géographique permet de comprendre les stratégies de domination spatiale et territoriale. Et comme elles permettent de comprendre les stratégies de domination spatiale et territoriale, alors la géographie est une science qui peut être une science émancipatrice. Et ça, c'était, on va dire, le grand apport de Lacoste et de cet article. Et donc nous, on a fait finalement un prolongement. On a essayé de prendre cet article pour voir ce qu'il en reste aujourd'hui au XXIe siècle, et plus particulièrement donc aujourd'hui en 2021-2022, l'aune d'un conflit qui fait rage à l'est de l'Europe, et de voir en fait qu'est-ce qu'il reste de cette démarche scientifique-là, notamment quand, et là ça nous concerne tous les trois ici qui sommes présents à ce micro, notamment quand on ne peut plus aller sur son terrain. Puisque c'est bien ce qui nous arrive à tous les trois, nous ne pouvons plus aller sur notre terrain, qui est la Russie, parce que ce pays est en train de se refermer, parce que c'est dangereux pour des chercheurs étrangers d'y aller, etc., etc. Et donc on s'est posé la question de comment est-ce qu'on pourrait finalement, un tant soit peu, continuer à faire notre job sans mettre notre vie en danger ou sans servir de monnaie d'échange dans des échanges de prisonniers, puisqu'on s'en passera bien. Et l'idée, enfin le constat que nous avons dressé, c'est que aujourd'hui les traces numériques jouent un rôle absolument énorme dans notre compréhension des conflits. On le voit très très bien avec ce qui se passe en Ukraine, qui illustre vraiment ça, même si c'est un mouvement qui existe depuis une dizaine d'années. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que la révolution numérique a amené au développement d'énormément, enfin a amené à la multiplication des capteurs en fait dans l'environnement. Ça peut être un smartphone, ce que vous voulez, un routeur, etc. Bref, des capteurs qui vont générer des données et qui vont traduire en données numériques des phénomènes qui se passent dans l'espace physique et qui donc rendent possible en partie de suivre un théâtre d'opération ou ce qu'on veut à distance. Et donc nous, ça c'est ce qui se passe. Et il y a beaucoup de gens qui font ça de manière extrêmement remarquable et c'est pas notre métier. Par contre, nous, on a voulu aller un clic plus loin en essayant de conforter la vision que Lacoste avait donc de la géographie comme science émancipatrice, avec justement l'utilisation des données stratégiques récoltées sur le terrain, avec cet exemple au Vietnam. On a essayé de concilier ça avec ce qui est en train aujourd'hui de se développer en Ukraine, et notamment toute cette information stratégique qui circule sur les réseaux sociaux H24. Et donc on s'est posé la question de, finalement, à quoi toutes ces données numériques peuvent nous servir quand on étudie les phénomènes géopolitiques. Et donc c'est en arrivant, en comparant cette expérience de Lacoste au Vietnam avec ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui en Ukraine, qu'on s'est rendu compte que les données numériques et l'analyse des données numériques participer de ce phénomène en fait d'analyse géopolitique et d'analyse géographique des conflits.
Maxime Audinet.
Oui, je pense que...
On parlera à la fin plutôt de l'émission de la guerre en Ukraine. Je le tease pour les auditeurs qui sont là pour la guerre en Ukraine, mais on en parlera parce que c'est un cas d'espace fascinant de ce qu'on fait avec de l'OSINT de nos jours, puis par ailleurs de plein de billets, de plein de méthodes, etc. Mais je vous ai interrompu, allez-y Maxime.
Voilà, pour revenir à un aspect dont Kevin parlait, qui est cette question finalement aussi du prolongement et de l'augmentation du terrain physique dans le terrain numérique, et tout le propos d'ailleurs du concept de datasphère qui a été développé par Géode, dans lesquels travaillent mes camarades, par Frédéric Douzet en particulier, c'est que... ce qui est intéressant dans justement nos cas d'études, et je pense que là encore l'idée de ce numéro, c'est de parler non seulement aux chercheurs en géopolitique, mais plus largement aux chercheurs en sciences humaines et sociales qui travaillent justement sur des terrains qu'on appelle sensibles, qu'on appelle des terrains difficiles, qu'on appelle des terrains même parfois dangereux, et qui ont ce problème justement d'accès au terrain physique. Et donc je crois que ce qui structure ce numéro, c'est aussi cette question de l'articulation entre le terrain physique et le terrain numérique, et comment, dans notre cas, on essaie de réfléchir à la manière dont on peut, lorsqu'on ne peut plus accéder pour des raisons qui peuvent soit être temporaires, soit pour des raisons très durables à un terrain, eh bien on peut mobiliser ce type de méthodologie. Et en fait, juste pour dire un petit mot, parce que En préparant ce numéro, je m'étais replongé dans un livre que tous les chercheurs en SHS mobilisent, qui est le guide de l'enquête de l'enquête de terrain de Beau et Weber, où ces deux auteurs nous disent que l'enquête sur Internet, l'enquête par Internet, ne saurait se substituer à une enquête traditionnelle qui va mobiliser l'entretien, qui va mobiliser l'observation participante, etc., tous ces aspects. Et ils disent que voilà, c'est hors de question d'imaginer qu'un seul jour, cette enquête par Internet puisse s'y substituer. Notre but n'est évidemment pas de dire qu'on peut faire uniquement du terrain numérique. L'idéal est évidemment de croiser un terrain classique, traditionnel, physique, avec un terrain numérique. Mais c'est plutôt de montrer à travers nos exemples, en fait, la valeur épistémique, la valeur de ces sources ouvertes qui peuvent tout à fait permettre de mener une recherche. Et je pense notamment aux nombreux doctorants qui travaillent avec ce type de méthode et qui ont écrit pour la revue Hérodote et qui vont mobiliser. Et donc, d'un petit peu déconstruire aussi cette idée que le chercheur en sciences humaines et sociales ne tirerait sa légitimité que du terrain physique, que du terrain in situ, et qu'on peut en fait tout à fait faire une excellente thèse et voir ensuite publier, etc., de très bons articles par ce type de méthode.
Mais alors justement, si on reviendrait évidemment sur les problèmes méthodologiques, parce que c'est des problèmes qui se posent pour les universitaires, mais pas que, hein. On l'a dit, il y a toute une communauté d'OSINT, dans une large mesure, les mêmes problèmes se posent pour tout le monde, mais si on revient peut-être sur l'historique de l'OSINT et l'émergence, parce que bon, on a dit que ça existe depuis toujours, enfin ça existe un peu plus depuis quelques temps quand même. Donc est-ce qu'on pourrait identifier des moments, enfin une entrée en quelque sorte dans cet âge d'or de l'OSINT dans lequel on semble être en ce moment, peut-être des grands faits, des grandes réussites de l'OSINT, on reparlera des acteurs évidemment, parce qu'il y a des acteurs qui sont devenus très célèbres, mais en tout cas, est-ce qu'il y a un moment pour vous où l'OSINT est arrivé vraiment sur le devant de la scène et a en quelque sorte fait ses preuves, en tout cas prouvé son utilité de manière spectaculaire? Je sais pas qui veut... Marie-Gabrielle Bertrand?
Oui, alors ben, en termes d'événements, alors je pense que déjà, on peut dire qu'il y a une définition qui est quand même assez clairement établie à la fin des années 80, dans les années 90 et au début des années 2000, avec les rapports qui ont été écrits par l'OTAN, en fait, qui justement sortaient un peu des arcanes du renseignement, ces méthodes, pour les définir et les publier, en fait, et donc rendre public le fait qu'on avait des méthodes qu'on appelait OSINT, voilà, et en fait vraiment
définir ce que c'était. Quoi, voilà, que les militaires s'en servaient.
Voilà, le dire, voilà, exactement, que c'était une pratique utilisée par les militaires. Et en fait, au-delà de ces rapports de l'OTAN, la pratique est restée finalement cantonnée aux militaires, justement, au domaine militaire et au service de renseignement. Et je pense qu'on peut dire, en fait, que peut-être, justement, la guerre en Ukraine actuellement est probablement l'événement qui fait sortir l'OSINT du milieu purement professionnel et en fait fait intervenir des amateurs. Et c'est vrai qu'avant on l'observait pas parce qu'on sait que ouais, y a des conflits précédents, l'Afghanistan, l'Irak, etc., où on a déjà des pratiques de reportage en fait de la donnée qui est produite sur le terrain, à la fois par les militaires et par des journalistes de guerre, finalement les reporters de guerre, Kevin en parle dans un article qu'on a coécrit, qui devrait paraître en décembre, du coup, en parlant du fait, justement en évoquant cette question des reporters de guerre qui, en fait, font passer la donnée et l'information dans le direct, en fait, et par le commentaire, finalement, des reporters de guerre et des journalistes, on a une forme d'analyse de la donnée qui se rapproche de l'OSINT.
Ah, vous voulez dire que c'est le fait que les reporters eux-mêmes n'aillent pas toujours sur le terrain et que l'OSINT passe à la télé qui, en quelque sorte, lui fait accéder à un statut supérieur ?
À ce moment-là, il y a un changement dans l'information que le public peut recueillir, finalement, et qu'il peut analyser, dont il peut se servir pour comprendre un conflit. Donc, à ce moment-là, déjà, il y a une forme d'ouverture. Mais finalement, la rupture, c'est vraiment ce que disait Kevin tout à l'heure, je pense, le passage au numérique, du coup, qui, en fait, au début des années 2000, n'est pas encore un état de fait, et qui l'est aujourd'hui, précisément, depuis 2022, en fait, avec la guerre en Ukraine, quoi. En sachant qu'en 2014, on avait déjà de la donnée qui émergeait, voilà, sur le terrain numérique, en fait, mais que cette donnée n'était pas encore traitée comme elle l'est maintenant par des amateurs.
Mais on peut dire, parce que, notamment, on vous en reparlera peut-être, mais en 2014, il y a quand même l'histoire du vol de Malaysia Airlines, oui, qui a été plus ou moins établie par de l'OSINT, mais c'est peut-être là que vous vouliez aller, Kevin Limonier.
Oui, absolument. là où c'est intéressant, c'est que ce qui se passe en Ukraine, en fait, comme l'a dit Marie-Gabrielle, c'est la massification de l'OSINT et c'est finalement une sorte de petite révolution dans la manière d'informer sur la guerre. Et d'ailleurs, dans notre article, on établit un parallèle entre donc cette guerre qui se passe sur les réseaux sociaux avec énormément de traces numériques, on établit un parallèle entre ça et la révolution qu'a pu être la couverture de la guerre du Golfe en direct par CNN, qui avait elle-même aussi marqué son époque. Donc ça, c'est la massification. Mais
ça, rappelons que c'est des trucs absolument inouïs à l'époque, c'est envoyer les images infrarouges, les images des bombardements de Bagdad, enfin, c'était incroyable. Enfin, bon, ça a l'air vraiment tout à fait ridicule de dire ça aujourd'hui, mais à l'époque, c'était incroyable de voir une guerre en direct à la télé, quoi.
Voilà. Et aujourd'hui, on la voit d'autant plus en direct, on la voit, je dirais même, en réalité augmentée, d'une certaine manière, puisqu'on a des informations sur les bataillons, sur qui a tiré tel missile, etc., etc. Bon, ça, c'est pour l'entrée, on va dire, la massification de l'OSINT et ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Mais je dirais qu'il y a, depuis le début de la révolution numérique, et notamment depuis le début de la massification d'Internet et des capteurs numériques dont je parlais tout à l'heure, et qui alimentent les enquêtes, et qui permettent d'alimenter les enquêtes OSINT, il y a pour moi eu deux matrices. La première matrice, en fait, c'est celle des révolutions arabes. J'en parlerai pas beaucoup parce que je suis pas spécialiste de ça, mais il y a eu du travail qui a été fait, notamment en Libye, notamment en Syrie également, pour comprendre comment se déroulait la guerre sur le terrain, pour essayer d'attribuer les attaques chimiques, pour essayer de les prouver, etc., grâce à des traces numériques, grâce à des gens qui étaient sur le terrain, qui risquaient leur vie, en partageant des photos, etc. Donc ça, c'est une première matrice qui est très importante. Et la deuxième matrice que je connais beaucoup mieux, en fait, c'est la Russie contemporaine, tout simplement. Pourquoi ? Parce que c'est en Russie ou à propos de la Russie qu'ont eu lieu les plus grandes enquêtes OSINT qui ont permis de populariser et de donner ces lettres de noblesse à cette discipline. Par exemple, comme vous l'avez dit, le fait que un collectif qui s'appelle Bellingcat et qui est aujourd'hui célébrissime ait réussi à prouver que c'était bien une batterie russe qui avait abattu le vol MH17 au-dessus de l'Ukraine en 2014. Ils ont également réussi à prouver l'identité, grâce à des enquêtes OSINT, l'identité des assassins de Sergueï Skripal, donc ils se sont livrés, il faut le rappeler, à une véritable attaque chimique en plein cœur de la Grande-Bretagne. Ce sont eux qui ont prouvé énormément de choses comme ça qui incriminent toujours la Russie. Pourquoi ? C'est pas tant que ces gens-là soient obsédés par la Russie que la Russie est un pays qui est obsédé par la donnée et qui est obsédé par le contrôle de la donnée. Mais sauf que la Russie est aussi un pays corrompu, où finalement toutes ces données qui sont produites par le contrôle social, par le contrôle politique, ben, finissent au marché noir. Et donc elles finissent au marché noir, elles permettent d'autant plus développer des enquêtes absolument passionnantes. Et d'ailleurs, on en revient donc là à l'article de Marie-Gabrielle Bertrand.
On reparlera de la Russie et de la donnée et de la spécificité russe, parce que c'est assez fascinant effectivement ce que vous décrivez dans votre article, Marie-Gabrielle. Mais alors justement, puisque vous avez mentionné Bellingcat, c'est intéressant, on peut peut-être en dire un mot, parce qu'il y a des acteurs comme ça. Bellingcat, c'est vraiment la tête de proue, la figure de proue en tout cas, parce que c'est un collectif très célèbre, qui a eu des très grands succès. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Est-ce qu'il y a l'équivalent ? On peut dire, par exemple, que dans cet article a notamment contribué Hervé Le Toqueux, qui était jusqu'à récemment, je crois, le président de la fondation Open Facto en France, qui avait vocation, alors qu'il pouvait sortir des enquêtes, mais surtout qui avait vocation à faire de la formation auprès de plein de monde. Ça, c'est un exemple, il y en a probablement d'autres. En tout cas, quels sont ? Est-ce qu'il y a des acteurs qu'on peut identifier, dont on peut identifier l'émergence et une importance particulière dans ce monde, dans cette galaxie, un peu méconnue, mais sauf pour les très nombreux qui y sont, de l'OSINT Maxime Audinet ?
Oui, je crois, en fait, ce qui est intéressant, c'est que, peut-être on aurait dû le dire d'emblée, c'est que vous avez différentes sphères qui mobilisent l'OSINT, de sphères, je dirais, professionnelles. Donc on a parlé du renseignement, on a parlé des pirates informatiques, on a parlé des journalistes, mais il y a aussi un dernier groupe qui effectivement rassemble ce qu'on appelle nous parfois des praticiens ou des figures qui travaillent dans des ONG, dans des associations, dans des différents types de structures qui vont effectivement mobiliser l'OSINT pour des raisons parfois militantes, des raisons parfois de documentations diverses sur, je pense par exemple dans le cadre d'Open Facto, à tout le travail qui mobilise sur par exemple le groupe Wagner et les agissements du groupe Wagner au Sahel. On a dans le numéro un auteur d'une association qui s'appelle EU Disinfo Lab et qui a pour particularité en particulier de mobiliser l'OSINT pour faire de la lutte contre la désinformation. Et eux du coup vont aller rechercher justement les métadonnées de faux sites internet, aller interroger les... aller observer les jeux de falsification de données, d'URL, de tas de choses pour finalement venir attribuer des opérations informationnelles à des acteurs bien déterminés. Alors c'est vrai qu'ils travaillent aussi beaucoup sur la Russie pour les raisons que Kevin évoquait, mais ils ont aussi travaillé par exemple sur l'Inde, sur d'autres États. Et donc on voit qu'il y a aussi dans ce processus d'horizontalisation des pratiques de l'OSINT toute une série d'acteurs privés qui mobilisent pour des raisons parfois lucrative ou non lucrative, mais je crois que c'est un élément aussi important dont on n'a pas parlé, qui est ce caractère aussi de marchandisation de l'OSINT qui est mobilisé par un certain nombre d'acteurs économiques. Mais parfois c'est aussi, et c'est le cas de EU Disinfo Lab, alors vous pouvez tout à fait accéder à leurs enquêtes, et je crois d'ailleurs qu'ils vont en sortir une bientôt, de manière gratuite.
Mais alors justement, si on pousse encore un cran et si on entre vraiment maintenant dans les questions méthodologiques, parce que on décrit le truc, ça a l'air super de la manière dont on le décrit, mais en même temps c'est comme n'importe quelle enquête, il y a des problèmes, il y a des travers, il y a des manières de faire de l'OSINT et de ne pas faire de l'OSINT. Et alors si on entre peut-être dans ces problématiques méthodologiques, alors vous me direz, mais bon, il me semble qu'une première qui est assez évidente de tout ce qu'on a dit, c'est évidemment le volume de données. C'est super que tout le monde laisse des traces numériques dans tous les sens, mais le problème c'est que du coup quand on fait de l'enquête, il faut savoir où chercher, comment trier. Et donc est-ce qu'on peut dire peut-être un mot de cette problématique tout à fait centrale qui est que on pense qu'on tombe sur une mine d'or, mais en fait il faut peut-être la chercher en dessous d'un tas de charbon assez souvent. Et il y a tout un savoir-faire à ce propos. Marie-Gabrielle Bertrand ?
Oui, alors effectivement, c'est vrai que dans la masse de données qui est produite, et là encore dans le cadre du conflit en Ukraine, on le voit bien, il y a une masse de données qui est produite. Effectivement, il y a à la fois c'est la question du traitement de cette masse qui va aussi reposer beaucoup sur la capacité à discerner entre l'information donc qui va être moins d'intérêt ou aussi l'information qui va être un peu du bruit finalement, qui va masquer l'information d'intérêt, voire qui va consister en de la fausse information en fait justement et qui va détourner de la vraie. Donc c'est vrai qu'il y a cette question de la discrimination entre la bonne information et celle qui sert à influencer finalement l'OSINTeur ou le praticien comme on disait ou le chercheur, enfin l'enquêteur en source ouverte. Du coup cette question de la méthodologie est fondamentale parce que justement l'information en fait va à la fois influencer l'analyse de celui qui la découvre en fin de compte, mais aussi évidemment le lecteur en fait ou celui qui va recevoir en dernier lieu l'analyse du chercheur en OSINT. Donc il y a vraiment cette question aussi de l'influence derrière qui pointe en fait. Et de fait, là, je pense que mes collègues pourront en parler aussi très bien. On a, dans le cadre du conflit en Ukraine, vraiment une utilisation de l'OSINT par les belligérants, justement dans le cadre d'opérations d'influence, en fait. Et chacun ici va pousser ses propres narratifs en publiant de l'information qui va finalement aller dans son sens.
Kevin Imanier ?
Oui, en termes de méthodologie d'enquête, il se trouve que le plus difficile, selon moi, qui fait de l'OSINT depuis assez longtemps, et au début sans le savoir d'ailleurs, comme le disait Maxime, et qui l'enseigne aujourd'hui depuis 3 ou 4 ans, donc à des étudiants de master à l'Institut français de géopolitique, je me rends compte que le principal, c'est, comme l'a dit Marie-Gabrielle, d'arriver à trier le bon grain de livret dans des masses de données absolument considérables. Et pour y arriver, par exemple, je vais vous raconter juste comment je fais avec mes étudiants pour les sensibiliser à ça et pour leur faire comprendre, leur faire toucher du doigt ce qu'est une enquête OSINT, donc une enquête à partir du recoupement de traces numériques pour essayer donc de découvrir une information grise. Je leur donne une URL. Je leur dis, ce site-là, on sait que c'est un site, je dis n'importe quoi, fait par Yevgeny Prigojine, hein, le très fameux, célébrissime, en République centrafricaine, mettons. Ce site existe, il est vrai, on sait que c'est un site qui a été créé par une organisation proche de Prigojine. Je leur dis, à partir juste de cette information de l'URL, trouvez-moi toute la galaxie des 50 ou 60 sites internet administrés par Prigojine directement ou indirectement en Afrique. Et là, je les laisse mouliner. Alors, je leur donne bien évidemment des outils. Je leur dis, bon, ben voilà, on peut aller par recoupement de registres WHOIS, par exemple. On peut aller par recoupement d'adresses IP. En fait, les WHOIS, ce sont des registres qui sont administrés par l'ICANN, donc qui est l'organisation qui s'occupe du chiffrage et des noms de domaines, de la gestion des noms de domaines Internet, et qui, tout simplement, permettent d'identifier à qui appartiennent les noms de domaines. Bon, aujourd'hui, plus personne n'utilise... aujourd'hui, plus personne ne rentre ses informations personnelles sur WHOIS. Hein, on est rentré dans une ère où on fait attention à ce genre de choses. Sauf qu'il y a 5-10 ans, ce n'était pas le cas. Et les gens mettaient leur adresse postale, leur nom, leur adresse mail, etc. Et donc, en fouillant dans les historiques WHOIS, en remontant très très loin sur certains sites internet, eh ben, on retrouve l'identité de la personne à qui appartenait tel ou tel nom de domaine il y a 10-15 ans.
Et à partir de là, Prigojine à Moscou,
par exemple, ou ce genre de choses. Et donc, je laisse mouliner les étudiants et bah, finalement, 2 semaines après, ils reviennent avec une belle galaxie de sites internet, et parfois d'ailleurs ils découvrent des choses qu'on ne savait même pas, parce que c'est ça aussi, c'est-à-dire qu'en fait c'est un terrain tellement ouvert que les étudiants souvent trouvent des choses que nous-mêmes chercheurs qui travaillons sur ces domaines depuis très longtemps on n'avait jamais vu, parce que tout simplement c'est infini, et c'est ça qui est assez passionnant.
Je voulais juste rebondir sur ce que tu disais avec des travaux de collègues de Bordeaux, Olivier Ledeuf et Raya Roumanos, qui a d'ailleurs écrit aussi un article dans le numéro, qui travaille sur l'appropriation de l'OSINT par les journalistes. Et en fait, ils ont écrit aussi un numéro consacré à l'OSINT où ils expliquent que justement, c'est une dimension dont on n'a pas parlé, derrière le mot intelligence, de open source intelligence, on fait souvent référence à la question de du renseignement, mais il y a aussi tout simplement, et c'est peut-être lié à l'ambiguïté du terme aussi en anglais, à l'idée aussi d'intelligence collective, de cette dimension qui est fondamentalement collective de l'OSINT, et qui fait que par justement des pratiques à la fois en groupe et puis une sorte de sédimentation des enquêtes des uns et des autres, qu'on peut arriver justement à peu à peu agrandir le nombre de données disponibles. Et c'est pour ça que ce que vient de décrire Kevin s'insère aussi dans cette logique-là. Il y a une espèce de culture OSINT qui est aussi fondamentalement quelque chose d'horizontal, de démocratisé et de collectif, qui est un élément important aussi de cet aspect. Ouais.
Mais là, on décrit comment ça marche, mais peut-être vous vouliez en venir, Kevin, au problème de la masse de données. Comment est-ce qu'on aide des étudiants à s'orienter là-dedans, quoi?
Alors, on aide des étudiants à s'orienter là-dedans, déjà en leur remontant le moral. Mais bon, ça, c'est souvent ce qu'on fait au début. Une fois passé...
Une grande donnée commune de l'enseignement.
Exactement.
Avant tout, il faut remonter le moral, sinon on n'arrive nulle part.
Donc, passé la première petite dépression face à la masse de données, je vais essayer d'expliquer à l'étudiant. Bon, ben voilà, creuser là-dedans, tu as... une pelle, tu as un tournevis, un marteau, un couteau suisse, etc. Tu as plein d'outils comme ça qui sont à ta disposition, lequel tu vas utiliser. Et en fait, c'est par la pratique de différents outils que l'étudiant va au fur et à mesure s'approprier les données, va s'approprier l'univers dans lequel il est en train de travailler, et va finalement pouvoir naviguer dedans. Et c'est d'ailleurs, je dois dire, à cause de ça que j'ai commencé à penser le parallèle entre OSINT et le terrain en géographie. Parce qu'il faut savoir qu'à l'Institut français de géopolitique, on envoie aussi les étudiants sur le terrain, le vrai terrain, c'est-à-dire le terrain physique.
Mais attendez, là vous tombez dans le piège. Comme s'il y avait un vrai terrain et un faux terrain.
C'est vrai.
Ce sont tous
des vrais terrains. Mais en tout cas, sur le terrain physique, celui qui a encore ses lettres de noblesse en géographie, hein, le gilet plein de poches, etc. et ce terrain-là...
Une petite loupe, un marteau,
exactement, un saut. Ce que vous voulez. Ouais. Et donc, ce terrain-là, en fait, nous, on envoie les étudiants donc, pendant un mois sur le terrain en master 1. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là qu'on les voit gagner en maturité de manière absolument phénoménale quand ils reviennent. Et pendant ce mois sur le terrain, qu'est-ce qu'ils ont appris à faire ? Ils ont appris à se mouvoir dans un espace culturel qui n'est pas le leur. Ils ont appris à connaître une population, un groupe social, que sais-je encore, en mangeant avec eux, en faisant la fête avec eux, etc., etc., en faisant des entretiens avec,
ça a l'air bien, avec ces gens-là. Ça paraît vite.
Bien sûr, il faut venir. Et bien pour Lossine, c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire que l'idée, c'est d'apprendre à se mouvoir sur un terrain numérique et d'apprendre à utiliser les outils qui sont mis à votre disposition, et donc finalement d'arriver à, je dirais, le but du jeu, c'est d'arriver à faire une espèce de, une sorte d'ethnographie numérique, en fait, à partir des traces qu'on arrive à récolter. Comment, à partir d'un jeu de données, je peux arriver à raconter une histoire vraie, hein, si possible, bien évidemment. Une histoire, donc, qui nous renseigne sur un rapport de force territoriale.
Mais alors, là où c'est intéressant, c'est qu'un deuxième travers, vous en parliez à l'instant, Marie-Gabrielle Bertrand, enfin, il y a cinq minutes, c'est les risques de... Enfin, la question de la fiabilité, en fait. La question de... On a plein de données, effectivement, et du coup, il paraît relativement facile pour des acteurs ayant des intérêts précis de glisser en douce dans ces montagnes de données, certaines qui les arrangent plus que d'autres, et, enfin, en tout cas, d'essayer de guider, d'orienter une enquête au Sint vers une certaine conclusion favorable à leur intérêt. Alors comment, en quelque sorte, comment ça se présente, cette chose-là, et comment, en fait, est-ce que les acteurs sur qui le Sint enquête en général essayent malgré tout de biaiser les choses?
Justement, effectivement, il y a des... Alors, à la fois la production d'articles qui vont rapporter des faits qui n'existent pas, en fait. On peut avoir ça, on peut avoir aussi...
C'est-à-dire un article de presse d'un site bidon qui parle de trucs qui n'ont pas existé.
C'est ça, ouais.
Pour un OSINTer un peu crédule depuis derrière son écran, ça peut avoir l'air d'une information valide comme une autre.
Voilà, ça pourrait. Alors, justement, donc c'est ce qui va distinguer probablement l'OSINTer, finalement, qui va être vraiment un enquêteur qui a l'habitude, finalement, en
général. Comment on reconnaît le bon OSINTer?
Finalement, une personne qui va recevoir la donnée sans l'approcher de manière, justement, à la manière d'un enquêteur. Parce que l'enquêteur, finalement, a cette particularité que dès qu'il l'approche, la donnée, il va le faire avec une certaine distance critique, en général. Donc, dans le cas des articles de presse qui vont être publiés de cette manière, on peut avoir des méthodes, en fait, qui vont être des méthodes de recoupement. Et là, ça rejoint ce que disait Kevin, en fait. C'est que quand l'article est publié sur un site, on a toujours la possibilité de vérifier qui a créé ce site, qui en fait l'a enregistré, donc a enregistré le nom de domaine, donc notamment grâce au registre WIS. Mais on peut avoir aussi des moyens de savoir, notamment, sans même aller jusque-là, en fait, on peut regarder la manière dont le site se présente et voir si cette mise en page ne correspond pas à des sites similaires qui, a priori, n'auraient rien à voir. Et on peut avoir, ce genre de détails qui permettent à l'enquêteur de se rendre compte que ces sites sont liés d'une manière ou d'une autre. Même s'il n'a pas le fond, il peut se dire « Ah ben là, il y a quand même quelque chose, ça ressemble à une opération de communication ou d'influence. » Et en fait, donc, pour l'enquêteur, il y a vraiment un travail d'enquêteur classique, en fait, de recherche d'indices, en fin de compte, qui, en fait, dans la recherche, pour le chercheur, va rejoindre les méthodes qu'on appelle des méthodes de triangulation, en fait, où il faut recouper plusieurs sources pour pouvoir établir qu'une information est vraiment fiable. Donc là, sur le terrain numérique, c'est compliqué, effectivement, parce qu'on peut avoir des opérations qui sont bien menées avec différentes sources qui vont aller dans le même sens.
Ouais, c'est-à-dire, si on vous balance 5 sites bidons au lieu d'un,
Ouais, il peut y avoir. Alors là, on peut avoir un doute parce qu'on peut dire il y a quand même c'est repris 5 fois. Est-ce que c'est pas quelque chose qui est avéré, en fait? Et là, en fait, c'est là où il faut recouper avec d'autres choses. Et donc les autres sources qui vont servir à la triangulation, il faut qu'elles soient différentes. Donc il faudra plus se pencher sur un article de presse publié en ligne, par exemple, mais éventuellement sur des vidéos, par exemple, qui seraient publiées sur YouTube, ou des enregistrements qui seraient publiés sur YouTube, des entretiens aussi. Enfin, il y a différentes manières de trianguler l'information, et qui est une pratique d'ailleurs qui, comme on le disait tout à l'heure, est classique pour les services de renseignement, finalement. Donc là, c'est l'enquêteur va utiliser des méthodes qui existent dans la pratique de l'enquête en général.
Maxime Audier.
Oui,
Moi, je voudrais rebondir sur ce que vient de dire Marie-Gabrielle, parce qu'en fait, vous remarquerez, ce qui est intéressant, c'est que l'écueil, ce type d'écueil qu'on peut faire à l'OSINT, on peut tout à fait le faire aussi à une enquête finalement traditionnelle. C'est-à-dire que quand vous allez, et c'est le cas en particulier dans les terrains en contexte autoritaire, dans les terrains dits sensibles aussi, quand vous allez faire un entretien avec un de vos enquêtés, il peut tout à fait lui-même, lorsqu'il vous parle, manipuler, c'est très fréquent, vous manipuler, vous donner une information uniquement partielle, utiliser de la langue de bois.
C'est vrai pour les journalistes aussi. On connaît tous des histoires de reportages où on balance 5 faux témoins pris au hasard devant le reporter qui arrive et qui, du coup, a l'impression d'avoir saisi l'âme immémoriale du pays, quoi.
Et juste pour vous donner un exemple qui, moi aussi, est un peu le moment où j'ai commencé à utiliser ce type de méthode, je travaillais à l'époque sur l'agence russe qui coordonnait les instituts culturels russes à l'étranger. Et je faisais des entretiens avec des gens qui travaillaient pour ces instituts ou pour l'institution mère à Moscou, etc. Et on me disait des choses intéressantes sur les programmes culturels qui étaient menés, sur des événements un peu partout, etc. Et quand je regardais en fait ce qui se passait, c'était souvent beaucoup moins ambitieux, beaucoup moins effectif aussi dans ce que je pouvais voir à côté que ce qu'on me disait. Et en fait, j'ai commencé à aller chercher toute la documentation numérique qui était diffusée sur les sites gouvernementaux liés à cette agence, en vertu d'ailleurs d'une loi qui avait été signée et qui obligeait en fait aux institutions étatiques russes de publier en fait cette documentation. Et dès que vous plongez en fait dans cette masse de données, un peu au début un peu absconde, etc., on a du mal à se repérer au début, on trouve par exemple des rapports comptables. Et là, vous pouvez descendre et vous voyez qu'il y a des sommes astronomiques qui sont consacrées à des choses, des événements qui par ailleurs sont assez réduit. Et en fait, peu à peu, en croisant justement, en triangulant, en utilisant peut-être même parfois des années plus tard, je suis tombé sur des enquêtes qui montraient que telle personne de cette agence avait été accusée de corruption, avait détourné de l'argent public, etc. Et c'est en fait, pour revenir à cette idée aussi de sédimentation, c'est que peu à peu, on finit en croisant un terrain physique, en le croisant aussi avec la collecte de sources ouvertes liées à ces acteurs, on finit finalement peu à peu par construire son objet de recherche. Et donc, tout ça pour dire que cette critique, elle est aussi valable pour des terrains assez traditionnels.
Il y a un problème qui se profile derrière et qui je trouve assez fascinant, qui est la question du rôle du secteur public, des acteurs publics là-dessous. Parce qu'il y a un truc, c'est-à-dire que tout ça sont beaucoup des acteurs privés. Alors on peut discuter du statut des chercheurs par rapport à une puissance publique, mais globalement ce sont des acteurs qui sont plus ou moins détachés des intérêts directs d'un État, que ce soit des collectifs comme Bellingcat, que ce soit des journalistes, etc. En tout cas, il y a une idée d'indépendance. Et en même temps, il y a aussi la volonté d'avoir une sorte de fiabilité. Enfin, c'est-à-dire, tout le monde ne peut pas aller dans les tréfonds de chaque enquête au SINT pour se demander si c'est une bonne enquête au SINT. Ça reviendrait à faire l'enquête, à ce que chacun fasse l'enquête. Donc, il y a du coup la tentation que certains acteurs publics certifient des OSINT, disent voilà, ça c'est de la bonne OSINT, etc. Enfin, renvoient vers des enquêtes, etc. Mais ce qui pose aussi la question, enfin, notamment, j'étais au détour d'un article sur le Covid, je crois, enfin, où ça parlait d'une certification d'un truc du gouvernement français qui renvoyait vers des enquêtes, etc. Et dire, ben, en fait, parfois un acteur public il pointe vers certaines enquêtes OSINT et il faut faire attention à, dès qu'un acteur public s'en empare, faut faire attention à l'agenda caché derrière. C'est-à-dire, enfin, je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais il y a l'espèce de... Il semble qu'il y a une sorte d'espèce de menace existentielle dès qu'un acteur public touche de près ou de loin à l'OSINT, ou même guide le public vers tel ou tel type d'OSINT. Je ne sais pas, Maxime Audinet ?
Non, mais peut-être, moi, ça fait écho à un problème qui est absolument fondamental si on souhaite légitimer, ce qui n'est d'ailleurs pas nécessairement le but de ce numéro, hein, mais qui, si on souhaite légitimer les pratiques OSINT, c'est toute la question qui est importante, qui est même fondamentale en sciences humaines et sociales, qui est celle de la reproductibilité de votre enquête et de votre expérience. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous fournissez vos résultats, si vous êtes incapable, ou si vous ne souhaitez pas, ou si vous détruisez les données et le chemin qui vous a permis d'accéder à ce résultat, effectivement, on peut considérer que votre enquête est tout simplement invalide. Alors, c'est une question qui se pose en doute moins pour d'autres secteurs, peut-être pour le journalisme, même s'il y a quand même une exigence à chaque fois de prouver, de démontrer tous ces éléments. Et les enquêtes OSINT qu'on voit sortir sont extrêmement précises, vont parfois très très loin. Mais c'est, voilà, ça renvoie aussi à cette exigence-là qui, je pense, est une dimension qu'on souhaitait aborder dans ce numéro et qui déborde sur d'autres domaines, comme par exemple le domaine juridique. On a cet article qui traite la question de l'administration de la preuve devant les cours de justice pour documenter des conflits et des crimes de guerre, notamment dans le cadre de la guerre en Ukraine. Il va falloir évidemment que derrière l'affichage des images, des vidéos, etc., qui vont être présentées, il va falloir démontrer aussi d'où ça vient, comment tout ça a été trouvé. Et je crois que c'est aussi important de montrer le résultat lui-même que toute la méthode qui a permis d'y parvenir, tout simplement.
Oui,
sur cette question de la reproductibilité et pour croiser entre ce que disait Maxime et la question que vous posiez sur la puissance publique, moi, la chose que je pourrais voir venir dans les mois/années à venir avec ce qui est en train de se passer en Ukraine, c'est la suivante. C'est-à-dire que l'OSINT, on l'a dit plusieurs fois au cours de cette émission, a acquis un nouveau statut d'émancipation, d'administration de la preuve, etc., de lutte même contre l'occupant russe, ce genre de choses. Moi, j'attends le moment où on va avoir des enquêtes qui vont être faites sur la base de traces numériques qui auront été fabriqués sciemment par des acteurs russes pour induire en erreur des OSINTeurs occidentaux ou ukrainiens. On ne l'a pas encore vu, je crois. En tout cas, je parle sous le contrôle de l'auditoire. Mais il me semble que c'est la prochaine étape, puisque finalement, l'OSINT, dans sa version...
Mais ça, on peut dire, enfin, on va en reparler après pour la guerre en Ukraine, mais on a vu des trucs, notamment dans la première phase, des trucs incroyables de soldats russes qui piquaient des AirPods, qui ensuite les ramenaient, et du coup, la personne à qui on, dont la maison avait été pillée par des soldats russes était capable de dire, bah voilà, c'est ce mec-là qui se trouve là en ce moment dans ce corps, ce bataillon. Enfin bref, ce que je veux dire par là, c'est que clairement, ils étaient un peu verts là-dessus, les Russes, quand ils sont arrivés en Ukraine. Enfin, peut-être que c'est aussi la difficulté de maintenir une discipline comme ça sur des masses militaire aussi vaste. Mais bon, en tout cas, ils n'ont pas vu venir le truc.
Ce qu'on avait vu en Syrie, ça fait, c'est pas nouveau, hein, les selfies de soldats russes avec le GPS activé, enfin ce genre de choses, c'est des grands classiques, c'est des grands classiques dans l'armée russe. Mais bon, on n'est pas à l'abri.
C'est aussi un grand classique dans l'armée française, notamment. On peut penser à nos militaires qui font leur jogging en se géolocalisant sur Strava. Si vous le faites, arrêtez de le faire, s'il vous plaît. On n'est pas les premiers à vous le dire, mais il faut vraiment rater. Oh, bah, excusez-moi.
Non, mais c'est tout.
Non, mais alors justement, ça nous renvoie vers ce cas extrêmement particulier qu'est la guerre en Ukraine, et puis vers ce qu'on commençait à dire déjà tout à l'heure sur la spécificité russe. Alors ça, c'est notamment votre article, Marie-Gabrielle Bertrand, qui le montre de manière extrêmement intéressante. C'est le fait qu'il y a un statut... Mais parce que ça pose la question de comment on fait de l'OSINT de manière différente sur différents terrains, avec différents acteurs. Et notamment, ce que vous montrez extrêmement bien, c'est qu'il y a un truc sur ce qui est secret et ce qui n'est pas en Russie. Il y a un statut de certaines choses qui sont devenues très très secrètes, tout ce qui touche aux infrastructures. Et puis, paradoxalement, et c'est un peu dépaysant quand on y pense en France avec la RGPD, enfin la protection des données, etc. En fait, tout ce qui touche aux personnes, apparemment en Russie, c'est au contraire extrêmement public. Et du coup, ben, c'est un peu le paradis de l'OSINTeur qui penche son regard du côté russe.
Oui, c'est vrai. Alors voilà, c'est pareil, c'est une question que Kevin a beaucoup étudiée aussi, donc je pense que on pourra en parler. Mais c'est vrai que c'est, on l'a étudié ensemble. Mais c'est vrai que c'est intéressant parce que pour le cas russe, on se rend compte rapidement en fait quand on fait des recherches sur Internet de personnes qu'on a un nombre de données personnelles impressionnant, date de naissance, lieu de vie, numéro de téléphone, etc., qu'on trouve beaucoup plus difficilement dans les pays européens. Et simplement, cette présence de la donnée personnelle en ligne en Russie est due à la construction en fait du Runet, de l'Internet russophone, et en particulier en Russie, qui, en fait, dans les années 90, s'est fait de manière assez, assez disparate, avec des acteurs qui... dans les années 90, en fait, avaient besoin, enfin, notamment dans le domaine en particulier commercial, en fait, avaient besoin de vérifier de la donnée parce que dans les années 90, on le sait, en Russie, il était difficile de faire des affaires de manière, avec une sécurité finalement pour les entreprises. Il y avait quelque chose d'assez difficile. Et donc, pour éviter, en fin de compte, de faire des affaires avec un acteur, en fait, qui n'était pas ce qu'il prétendait être, etc., il y avait un besoin de publication de la donnée, en fait, d'accès public à la donnée. Donc les autorités russes, à ce moment-là, ont commencé à mettre en place des bases de données sur le Runet, publiques, de manière à ce que, les entrepreneurs puissent vérifier si, lorsqu'ils prenaient un fournisseur, par exemple, ce fournisseur était une vraie entreprise et qu'il existait vraiment, et que ce n'était pas un groupe criminel, en fait, qui allait disparaître avec l'argent de l'entreprise, quoi. Donc ce genre de cas était tellement fréquent que ça a donné lieu à ces créations de bases de données publiques. Et dans ces bases de données publiques, on a de la donnée très personnelle, donc à la fois les statuts des entreprises, etc., mais aussi donc les noms des entrepreneurs, des directeurs financiers, etc. Donc c'est très, très précis, très détaillé. Et tout ça est resté tel quel sur l'Internet russe jusqu'à très récemment, parce que les autorités russes se sont rendu compte très récemment, justement, du risque que ça posait en termes de renseignement, justement, et de stratégie. Parce qu'on a, dans ce cadre, évidemment, des entreprises qui vont être contractuelles de l'État, contractuelles des services de sécurité et de renseignement russes. Et pour des enquêteurs comme Bellingcat, en fait, par exemple, c'est une source de données utile, parce que eux, ça leur permet de retrouver, par exemple, telle entreprise travaille avec le FSB, donc cette entreprise, si on la retrouve, ils la retrouvent dans une enquête, ils peuvent faire des liens. C'est quelque chose qu'ils ont fait notamment avec une entreprise qui est rattachée au GRU, par exemple,
Donc le GRU, c'est les services de renseignement.
Services de renseignement militaires russes, ouais. Donc, par exemple, dans ce cadre-là, ça aide les enquêteurs onusint, et derrière, il y a des enjeux stratégiques extrêmement graves, en fait. Donc, et ces bases de données, en Russie, ont été publiques longtemps. Et aujourd'hui, on commence à trouver des fermetures. Il y a une protection un peu plus importante aujourd'hui de ces bases de données. Et justement, par exemple, les entreprises qui ont été rattachées au GRU par Bellingcat ont pu notamment disparaître des registres, en sachant que la loi russe rend obligatoire pourtant cette présence dans les bases de données. Donc ici, après, les acteurs commencent à finalement jouer un peu avec la loi parce qu'ils se rendent compte que derrière cette facilité d'accès à la donnée personnelle en Russie, il y a de véritables risques.
Moi, je voulais peut-être ajouter un élément pour revenir à cette spécificité de la russologie ou des études slaves, d'ailleurs, plus largement, parce qu'en fait, il y a d'autres terrains qui deviennent de plus en plus difficiles hors de la Russie d'accès. C'est qu'on voit, finalement qu'il y a une sorte de moment enquête numérique lié à la guerre en Ukraine. Alors c'est déjà évidemment le cas depuis 2014, mais l'invasion a renforcé considérablement ce phénomène, puisque on voit que peu à peu le territoire russe, que ce soit le territoire physique ou l'espace informationnel, se referme à plusieurs égards, sur lequel d'ailleurs je vais pas forcément revenir. Mais ce qui est intéressant, c'est que tous les chercheurs et les chercheuses qui aujourd'hui travaillent sur la Russie sont en train de se demander en ce moment même comment est-ce qu'on va pouvoir travailler sur ce sujet. Et effectivement, l'enquête numérique est un élément déterminant de cet aspect-là. Mais par exemple, moi, ça m'arrive de discuter avec des camarades qui sont sinologues. Et pour eux, je crois que la comparaison est extrêmement intéressante, parce qu'en fait, eux trouvent que finalement, on est presque un peu naïf, les russologues, d'imaginer qu'on aurait pu, ad vitam aeternam, retourner en Russie, faire tous ces aspects-là, etc. Parce que eux, pour le coup, certains en qualifiant leur pratique d'usine d'autres noms, mais travaillent énormément sur les sources ouvertes chinoises qui sont, alors pour des phénomènes très différents, l'infrastructure numérique chinoise n'a rien à voir avec l'infrastructure russe, mais on a par exemple l'article de Paul Charron sur la sinologie dans le numéro. Il y a eu le rapport de l'IRSEM de Paul Charron et de Jean-Baptiste Jean-Gilmer.
On en parlait au micro avec eux, et ils montrent en tout cas l'existence de bases secrètes juste avec des trucs de Google Maps, quoi. Enfin, c'est vraiment des trucs très très basiques, quoi.
Mais même en allant au-delà de ce genre d'enquête là, je pense à toute la littérature académique ou d'expertise qui peut se trouver en ligne. D'ailleurs, je crois qu'il y a une base qui a fermé récemment en Chine. Je suis pas sinologue moi-même, mais tout ça pour dire qu'en fait, c'est aussi une question qui se pose pour la sinologie depuis très longtemps. Et vous avez des dizaines de sinologues qui mobilisent en fait ce type de pratique pour étudier la Chine. Et je pense que du coup, la russologie à ce titre a sans doute beaucoup à apprendre de la sinologie sur ce plan, parce qu'en fait, eux-mêmes mobilisent peut-être. Ça, j'en sais rien de quelle manière c'est normé ou non, mais en tout cas, et puis l'accès à la donnée est plus difficile en Chine qu'en Russie, mais il y a des éléments de croisement assez intéressants de ce point de vue. En tout cas.
Mais alors justement, qu'est-ce qu'on pense de l'avenir, en quelque sorte, de l'OSINT, notamment appliqué au conflit ukrainien? C'est-à-dire, par exemple, ce que vous disiez sur les bases de données, Marie-Gabrielle Bertrand, est-ce que c'est pour soi qu'on réussit à retrouver apparemment si bien et si facilement des militaires, par exemple, on en a beaucoup parlé, mais un des trucs de l'OSINT, ça a été le massacre de Boutcha, au moment de la fin de la première phase, enfin du retrait après la première phase de l'invasion, où on a retrouvé. Alors d'ailleurs, c'était un peu limite à certains égards, parce que ça diffusait les photos de. Enfin, ça identifiait un bataillon, ça diffusait les photos de filles, etc. Enfin, c'était difficile de voir ça et de pas se dire. Bon, on comprend, en même temps, en fait, il y a des procédures pour ça, ça s'appelle le droit international, on diffuse pas les photos, on pourrait mettre la photo de n'importe qui, ce serait difficile de savoir que c'est faux, enfin bon. Mais est-ce que c'est lié à cette immense disponibilité, apparemment, des données personnelles sur un certain nombre sur les Russes, en Russie en tout cas? Est-ce que c'est autre chose? Et surtout, est-ce qu'on pense que c'est une ressource qui va se tarir, ou est-ce que, c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure, quoi, c'est le désordre dans les grands nombres, ce sera toujours difficile de maintenir une armée avec une discipline suffisante et avec pour que ces choses-là n'apparaissent pas. Je sais pas.
Sur la question du devenir de l'OSINT pour l'étude des sociétés autoritaires, on va dire, hein, que ce soit la Russie, la Chine ou d'autres pays, en fait, tout dépendra du niveau d'adaptation, en fait, du degré d'adaptation des autorités à cette nouvelle réalité. C'est-à-dire que pour l'instant, on est encore dans cette période de grâce, si j'ose dire, qui est en train de se terminer, où on a face à nous un pays, la Russie, qui pendant très longtemps n'a pas compris l'intérêt de toutes ces données qu'il stockait et qui étaient vendues au marché noir et ce genre de choses. En tout cas, n'a pas compris que ces données-là pouvaient se retourner contre lui. Ça a été le cas pendant quasiment 10 ans. Enfin, je veux dire, quand Navalny identifie les agents qui ont tenté de l'empoisonner dans l'avion qu'il a mené, je crois, à Novosibirsk, je ne sais plus où, il le fait grâce au manifeste de vol de tous les vols qu'il a pris depuis 3 ans. Et en fait, il se rend compte que sur tous les vols qu'il a pris depuis 3 ans, il y avait toujours les 2 ou 3 mêmes noms. Et après, grâce à ces noms-là...
Et que quoi, ils essayaient de l'empoisonner à petite dose?
Qu'en fait, il était suivi depuis un moment, et que grâce à ces noms-là... Oui, et grâce à ces noms-là, ils vont trouver les numéros de téléphone. Grâce aux numéros de téléphone, ils vont comprendre qu'ils sont du FSB, qu'ils sont liés à une unité du FSB qui est elle-même, je crois, spécialisée dans les empoisonnements. Hein, je ne sais plus exactement, mais enfin bon, bref.
Ça doit être sympa
vraiment,
comme bureau FSB, le bureau des empoisonneurs.
Le bureau des empoisonneurs. Non, j'invite vraiment les auditeurs à regarder la vidéo d'Alexei Navalny où il explique par A plus B toute l'enquête qui a mené à identifier les types du FSB. C'est fascinant, et c'est un cas d'école d'OSINT, où ça se termine avec un coup de fil de Navalny lui-même aux agents du FSB, qui reconnaissent que oui, enfin il se fait passer pour quelqu'un d'autre, mais qui reconnaissent que oui.
Pour un supérieur hiérarchique.
Leur supérieur hiérarchique, qui dit oui, on n'a pas réussi cette fois à l'avoir, mais la prochaine fois on y arrivera. Et bref, ce que je veux dire par là, c'est que pendant très longtemps, donc ces pays, et notamment la Russie, n'ont pas compris l'intérêt intérêt. Ce que disait Marie-Gabrielle tout à l'heure, c'est que on commence à avoir une fermeture de toutes ces bases de données, on commence à avoir une mise au pas. Et donc maintenant, on rentre dans une phase, je dirais, de course à l'ingéniosité. C'est-à-dire, c'est finalement le cycle normal du hacking, hein. C'est-à-dire que quand il y a une faille, on la bouche et on essaye d'en trouver une autre. Là, les failles étaient tellement béantes et tellement faciles à exploiter que finalement, il n'y avait pas beaucoup de besoin d'ingéniosité. Hein. Je veux dire, il y a pas très longtemps, on pouvait arriver à identifier des galaxies entières de sites internet créés par les Russes, proches du GRU, etc. Tout simplement parce qu'il y avait des types qui, dans les métadonnées des WHOIS, avaient mis à un moment une adresse mail, je crois, qui était reliée au GRU. Enfin, c'est quasiment de l'incompétence à ce niveau-là, à ce moment-là. Enfin, on le saura jamais, mais moi, c'est mon hypothèse. Mais quoi qu'il en soit, il va y avoir une course à l'ingéniosité et une course à la compétence. C'est-à-dire que je pense que les autorités russes sont en train de prendre conscience du problème. Je ne sais pas combien ça va prendre de temps, hein, pour qu'il y ait une véritable adaptation qui se mette en place, mais ça finira par arriver. Et à ce moment-là, la question, c'est comment est-ce que les OSINTers, comment est-ce que la communauté OSINT ukrainienne, occidentale, va arriver à se réinventer une fois que toutes ces ficelles, ces vieilles ficelles qu'on exploite depuis très longtemps, ne seront plus disponibles. Marie-Gabrielle parlait tout à l'heure d'une base de données qui permet notamment d'avoir accès à toutes les informations sur une entreprise, savoir si elle contracte des marchés publics, avoir le numéro de téléphone, le nom du patron, etc. Combien de temps est-ce que ces bases de données vont rester librement disponibles en Occident, pas en Russie, mais dans le reste du monde, puisqu'on sait aussi qu'il y a la problématique de la fermeture progressive de l'Internet russe. Le Runet est en train de se refermer, il est en train d'être de plus en plus hermétisé par les autorités qui posent des boîtiers de filtrage à toutes les frontières numériques du pays. Il va arriver un moment où, en fait, même avec toute la bonne... Pour l'instant, non. Alors ça, c'est une autre question. C'est un gros sujet de recherche sur lequel je travaille depuis longtemps. On pourrait reparler, mais ouais. On ne va pas partir là-dedans.
C'est les histoires de grandes murailles de Chine numérique, de runettes souveraines, etc. Parce que oui, effectivement, si un jour on a des bases de données qu'on ne peut consulter qu'en Russie, probablement ils trouveront un truc. Voilà. Le problème, c'est que s'ils ont besoin des bases de données et qu'ils n'arrivent pas à fermer leur Internet, bon, bah, ça risque de rester ouvert un moment.
Exactement. Ça, c'est la version optimiste. Effectivement, on a un article dans le numéro qui est écrit par Louis Pétignot, qui est un spécialiste de l'Ukraine et qui est un spécialiste du routage internet, qui explique très bien la stratégie territoriale des Russes, qui consiste à, dès qu'ils occupent un territoire, à déconnecter le réseau de ce territoire du réseau ukrainien et le reconnecter sur le réseau russe. Pourquoi ? Parce que en le reconnectant sur le réseau russe, vous vous mettez justement derrière tous ces boîtiers de filtrage qui font que finalement, pour les utilisateurs des zones occupées, ils changent quasiment de régime de vérité. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus du tout accès à la même information, ils n'ont plus du tout accès aux mêmes réseaux sociaux, ils n'ont plus du tout accès à la même vérité, entre guillemets, selon qu'ils se situent à l'est ou à l'ouest de la ligne de front.
Mais on peut préciser que c'est quand même très compliqué, parce que Internet, c'est des paquets de données distribués, etc., et que donc ça prend toujours des chemins très très différents, et que à moins de... Mais ce qui est possible de faire, notamment dans le cas que vous citez, cet article de Louis Pétignot qu'on a eu dans le podcast à un moment, mais qui est pour parler justement des opérations cyber en Ukraine, qui est très intéressant effectivement, sauf si vous mettez un seul câble qui passe par un point là, effectivement, on peut faire des choses, mais l'architecture d'Internet telle qu'elle est pour l'instant, décentralisée, fait que bon, c'est pas facile de mettre des gardes-frontières sur tous les tuyaux.
Absolument. Et c'est d'ailleurs la principale garantie aujourd'hui que nous avons et qui est plutôt rassurante, c'est que... Alors, c'est pas tant une histoire de câbles que de routage et de système autonome, en fait. Hein, parce qu'après, vous avez des câbles de fibre noire sur lesquels, en fait, vous avez les données de plein de systèmes autonomes différents qui passent. Mais là où ça peut effectivement être rassurant, c'est que la Russie a un des réseaux les plus complexes au monde, en termes de réseau logique. Pas de réseau physique, mais vraiment d'interconnexion des systèmes autonomes qui sont les sous-réseaux qui composent l'Internet. La Russie a un des systèmes les plus complexes au monde. Pourquoi ? Parce que son Internet s'est construit de manière totalement anarchique dans les années 90 et qu'il n'y a pas eu de centralisation étatique de quelconque manière que ce soit, comme nous on a pu l'avoir avec France Télécom ou ce genre de choses, qui fait qu'en Russie vous avez plus d'une dizaine de milliers d'opérateurs. Ils n'ont pas eu de Minitel, mais ils n'ont pas eu surtout d'État fort, centralisé, colbertiste, qui était là pour dire ce qu'il fallait faire. Donc on se retrouve dans une situation qui est d'un Internet extrêmement décentralisé, avec des acteurs dans tous les sens. Il faut dire qu'il y a plus de 10 000 entreprises en Russie qui ont une licence pour devenir des fournisseurs d'accès à Internet. Quand en France, on en a 4, hein, des fournisseurs d'accès à Internet qui se partagent 90% du marché. Et que donc, si vous voulez contrôler tout ce beau monde, en fait, il faut arriver à les mettre autour d'une table, il faut arriver à édicter des règles, mais surtout, il faut arriver à rationaliser tous les chemins de l'Internet russe. Or, l'Internet russe a des chemins dans tous les sens. Il y a des chemins de traverse de partout. Il y a des systèmes autonomes dans tous les sens. Ce qui fait que jusqu'à maintenant, et ça, on a écrit plusieurs articles avec Marie-Gabrielle sur la question, jusqu'à maintenant, les autorités russes ne sont pas en capacité d'appliquer la loi de 2019 sur le RENET souverain qui, normalement, oblige, on va dire, tous les opérateurs à filtrer ce qui entre et ce qui sort. Et c'est d'ailleurs grâce à cette loi que la Russie pourrait éventuellement un jour être capable de se déconnecter du reste du réseau. Ça n'est pas encore le cas, mais on en prend le chemin. D'ailleurs, nous, on a des métriques qui tournent là-dessus, on regarde ce qui se passe, et plus le temps passe, et moins on va dans le bon sens. C'est pas demain la veille, mais en tout cas, ça risque d'arriver, et le jour où ça arrivera, en fait, si ça arrive, ça sera la preuve, en fait, ça sera la fin d'Internet. Parce que ça voudra dire qu'un État, la Russie, aura développé les technologies suffisantes pour casser la dynamique décentralisée ou distribuée du réseau et aura réussi à tout réorganiser selon sa volonté. En sachant que la Russie a un des réseaux les plus complexes du monde, si eux arrivent à avoir cette technologie et à la maîtriser et à la mettre en place, ils pourront la vendre à absolument n'importe qui. Et donc là, on se retrouvera dans une situation où on aura des internets de plus en plus séparés les uns des autres, et que pour aller donc chercher de l'information sur l'internet des autres, il faudra redoubler d'ingéniosité, comme par exemple... Pourquoi pas, un jour, avoir des tunnels VPN d'un Internet à l'autre en passant par des balises Starlink, par exemple, en passant par du satellite. Imaginons quelqu'un qui voudrait travailler avec des chercheurs français et qui serait prêt à risquer sa vie en Russie. Il pourrait très bien avoir une balise Starlink, faire un tunnel VPN et on aurait accès au réseau russe. Mais vous imaginez les risques que ça serait prendre pour cette personne. Mais... si les choses continuent à aller dans le sens dans lequel elles vont aujourd'hui, c'est vers là qu'on va.
On peut rappeler simplement, c'est donc ces satellites développés, enfin, lancés notamment par Elon Musk et par sa société, et qui ont joué d'ailleurs un grand rôle en Ukraine, puisque ça a coupé toute perspective, même que la Russie puisse couper les communications ukrainiennes. C'est-à-dire, c'est pas que tout soit passé par Starlink, c'est que de toute façon, tout aurait pu passer par Starlink, et du coup, la Russie, c'est même pas engagé dans une destruction massive des infrastructures de communication. Donc c'était vraiment une partie d'échec assez intéressante de ce point de vue-là. Mais alors justement, je vous pose aussi la question, Marie-Gabrielle et Maxime, parce que voilà, si on reste dans cette idée que là on est donc, pour garder une métaphore classique, on est dans un âge d'or de l'OSINT, parce que on a les méthodes, on a les acteurs et...
c'est la fin de l'âge d'or, là.
Voilà, Les États autoritaires sont pas encore assez malins pour contrôler les choses. Dans la métaphore classique, c'est après l'âge d'or, il y a l'âge d'argent, il y a l'âge du bon. Enfin bon, ça, on décline progressivement. Comment est-ce que vous voyez en quelque sorte, parce qu'on pourrait aussi imaginer que, voilà, si on croit à l'ingéniosité des acteurs privés, à ces collectifs qui sont extrêmement puissants, etc., auxquels on peut opposer une certaine lourdeur en général des entreprises étatiques, on peut supposer que les OSINTOR auront toujours une longueur d'avance. Sur les gardes churmes, mais en même temps, qu'est-ce que vous en pensez donc ? Je sais pas.
Effectivement, il y a quelque chose d'intéressant. On en a parlé plusieurs fois, mais on ne s'est pas vraiment penché dessus. Mais c'est vrai que les OSINTOR, comme aujourd'hui, on a énormément d'amateurs, il y a vraiment cet esprit de communauté et qui rejoint ce que disait Maxime tout à l'heure avec un désir de rendre publique l'information et que l'information reste publique, mais aussi de dévoiler l'information cachée, etc. Donc il y a vraiment tout un esprit de l'OSINT qui rejoint un peu l'esprit hacker, en fait, l'esprit du piratage informatique, finalement.
L'esprit des débuts d'Internet aussi. Disons-le, c'est assez plaisant quand on voit les communautés aussi, quand on les voit interagir. On a un peu l'impression de voir les geeks des années 90 qui ont battu l'Internet qu'on connaît, quoi.
Il y a énormément de passerelles.
Il y a un paquet d'OSINTOR qui n'étaient pas nés à l'époque.
Plus jeunes, c'est vrai.
Qui n'étaient pas nés, mais il y a aussi énormément de passerelles parce que, justement, il y a énormément de pirates informatiques qui sont OSINTOR et inversement, en fait. Le truc, c'est qu'on a énormément de personnes qui sont qualifiées en sécurité informatique, donc qui connaissent le piratage, qui s'en servent pour faire de l'OSINT ou pour publier de la donnée à destination des OSINTers. Et en France, on a des communautés intéressantes, parce qu'on parlait d'OpenFacto notamment, qui travaillent clairement avec des pirates informatifs. Enfin, il y a du piratage qui peut... Enfin, du piratage, pas chez OpenFacto, pardon, mais il y a une récupération...
Vous n'allez pas balancer... Hervé Le Toqueux était censé être là aujourd'hui, il a eu un empêchement... qu'en plus on balance pas que...
Il aurait dû être là, j'aurais... Non, mais je veux dire, il y a une récupération des fuites de données, en fait, et une centralisation des fuites de données qui sont publiées par des pirates informatiques et qui sont récupérées justement par des groupes comme OpenFacto, où on peut avoir des communautés, par exemple, je pense à OSINTFR aussi, qui est pareil, enfin, qui est un peu le même, qui est une communauté, il y a moins de journalistes chez OSINTFR, mais qui est une communauté qui est composée justement au départ en grande partie de personnes qui sont en sécurité informatique. En fait. Et là, c'est pareil, c'est des personnes qui connaissent l'aspect technique du piratage. Et quand on a une fuite de données qui advient à l'étranger, par exemple, on a des personnes qui sont capables d'analyser la manière dont ça a été récupéré. Et aussi, du coup, grâce à leurs connaissances techniques, qui sont capables de dire là, on a une base de données qui est plus ou moins fiable, en fait. Et c'est ces bases de données, ensuite, sont récupérées par les OSINTers, qui donc parfois sont aussi des personnes qui connaissent le piratage, et du coup, sont traitées. Et en fin de compte, il y a vraiment des passerelles entre les deux milieux. Et aujourd'hui, c'est là sur la question de l'âge d'or, c'est un peu aussi la question qui se pose, c'est que actuellement, s'il y a un âge d'or de l'OSINT, c'est aussi parce qu'il y a du piratage massif en Russie, dans le cadre de la guerre en Ukraine, en fait, par des pirates informatiques qui veulent déstabiliser, du coup, la Russie, pour déstabiliser son entreprise de guerre, en fait. Ce qui fait que là, on a de la donnée qui sort massivement, et de la donnée, hautement stratégique, de donner des services de renseignement russes. Voilà. Et là, on a cet âge d'or. Mais effectivement, une fois que la guerre en Ukraine aura évolué ou éventuellement sera terminée, on peut se poser la question de comment se passera, enfin, qui piratera, en sachant aujourd'hui que, enfin, justement, le risque est pris en compte, le risque du piratage par de plus en plus d'entreprises et d'États, qu'il y a de plus en plus de garde-fous, finalement. Est-ce que... ça aussi, ça ne va pas tarir un peu l'âge d'or qu'on a actuellement dans l'OSINT, avec un accès réduit considérablement à de la donnée grise et à des fuites de données. En fait, on peut se poser la question.
Maxime Autinet, oui, âge d'or.
Pour terminer, je pense que je vais faire un bond dans le passé. On en parle un peu dans notre article sur tout ce qu'ont fait, en fait, les fameux soviétologues à l'époque de la guerre froide, où en fait, en réalité, ne pouvant pas aller sur le terrain, ne pouvant pas aussi mobiliser l'OSINT, puisque en tout cas l'OSINT numérique, puisque à l'époque ça n'existait pas ou c'était trop balbutiant, ont travaillé sur, en fait, les marges, ce qu'on appelle les marges. Alors ça peut être des marges géographiquement bien situées, ça peut être des marges dans notre cas aujourd'hui, et c'est d'ailleurs ce qu'on commence à faire, finalement. Est-ce que le fait de ne pas pouvoir aller sur le terrain fait qu'on ne travaille pas déjà en quelque sorte sur les marges? Et je pense qu'il faut aussi faire confiance à ce dont mes camarades parlaient tout à l'heure, de cette course à l'ingéniosité aussi, où finalement, de la même manière, je pense par exemple à la manière dont les samizdat ont circulé en ou hors de l'Union soviétique, le cas est évidemment très emblématique du manuscrit du docteur Jivago de Pasternak aussi, qui a été une grande opération d'influence et qui a fait que des personnalités ont pu faire circuler une information, en l'occurrence une œuvre littéraire, mais qui était critique du régime soviétique. On peut espérer que là encore, non seulement des gens qui travaillent hors de Russie, mais aussi en Russie. Et je pense que ce qu'on observe en ce moment, parallèlement à la mobilisation partielle, comme elle est appelée, en fait, qui est une mobilisation indiscriminée en Russie, où on voit là encore des personnalités qui, en Russie, contestataires, plutôt que de s'approprier des modes de contestation assez traditionnels, comme le fait d'aller dans la rue, par exemple, qui est extrêmement risqué, vont développer d'autres modes de mobilisation et de contestation. Et je pense que, justement, des opérations de piratage et de leak de données sur le régime, des éléments qui vont justement venir de l'intérieur et être propagés à l'extérieur par différents moyens pour critiquer, en fait, les décisions du régime, vont aussi se multiplier parallèlement à ce mécontentement croissant, en fait, en Russie. Donc il faut aussi, si on peut donner une note un peu optimiste, espéré, comme d'ailleurs l'a fait Navalny et le fond, sa fondation de lutte contre la corruption pendant des années, qu'il y aura des acteurs endogènes russes eux-mêmes qui, on reste sur la Russie, qui pourront aussi justement continuer à mener ce type d'opération et de transmission de l'information malgré la fermeture de l'espace informationnel.
Kevin Meunier.
Oui, et juste pour ajouter à ce mot de la fin, on a dit plusieurs fois dans cette émission que l'OSINT participait aussi d'un mouvement émancipateur, puisqu'il s'agit de faire émerger ce qui est censé être caché. Et que dans ce cas-là, comme le dit très justement Maxime, aujourd'hui en Russie, il est risqué de sortir dans la rue pour manifester, pour protester, et que finalement, la contre-enquête numérique, c'est-à-dire le fait d'essayer de démasquer le pouvoir dans toute sa corruption, et depuis une dizaine d'années, une activité largement pratiquée par tout un ensemble de l'opposition russe, et à mon avis, effectivement, sera demain toujours aussi plébiscité. Et juste pour dire qu'il va y avoir un numéro d'une revue qui s'appelle Multitude, auquel on a participé avec Marie-Gabrielle, sur l'OSINT et sur la contre-enquête numérique, justement. Voilà, donc j'en profite juste pour leur faire un petit peu de pub, parce que ce numéro sort quelques temps après, je crois, le numéro de la revue Hérodote, et je pense que ça va être très complémentaire. Voilà.
Très bien, merci beaucoup à tous les trois. Donc je rappelle ce numéro de la revue Hérodote, intitulé « Enquête, OSINT, enquête et terrain numérique ». Merci beaucoup.
Merci.
Enfin, je vais juste me permettre une note un peu personnelle, puisque c'est un sujet dont on a parfois parlé autour de ce micro, notamment dans un épisode à front renversé qu'on avait fait avec Jean-Baptiste Jean-Gène Villemer, mais simplement pour annoncer que le livre tiré de ma thèse sort ces jours-ci, donc demain pour être exact, mercredi 5 octobre, merci. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, ça s'appelle Par le fer et par le feu, c'est publié aux éditions Passé Composé, et ça devrait donc être disponible dans toutes les bonnes librairies, les mêmes que celles où vous trouvez donc la revue Hérodote probablement. Le sous-titre, c'est donc Combattre dans l'Atlantique 16e-17e siècle, c'est une histoire de l'abordage, plus généralement du combat naval au début de l'époque moderne, donc ça peut paraître évidemment un peu éloigné des thèmes qu'on traite dans ce podcast, en tout cas temporellement, mais dans le fond, ça parle d'histoire militaire, de guerre navale, de vie et de mort au combat, mais aussi d'évolution technique et technologique militaire, et des manières dont l'art de la guerre se recompose quand une nouvelle technologie arrive, en l'occurrence les armes à feu, et comment les hommes s'y adaptent plus ou moins rapidement et efficacement. Bref, pour ceux que ça intéresse, il sort ces jours-ci en librairie, si certains auditeurs sont ce week-end au rendez-vous de l'Histoire de Blois, je serai là pour plusieurs interventions et des dédicaces, et j'aurai plaisir à vous croiser. Sinon, je pense qu'on organisera des événements et des rencontres à Paris dans les semaines qui viennent. C'était donc Le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Je vous rappelle que toutes les remarques, commentaires, notes, appréciations sont les bienvenues par mail sur les réseaux sociaux de l'IRSEM ou par les outils d'Apple Podcast ou de SoundCloud. Tout ça est tout à fait intéressant pour nous d'avoir vos retours et ça aide aussi grandement à la visibilité du podcast. Merci à toutes et tous et à la prochaine fois.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.